las conferencias de Radio Languedoc. Para esta conferencia, es aquí la temática Occitanie, cultura de la Mediterránea, que fue preparada por Alain Suré García, escrivain, cercaire et conférencier placonegut, accompagné de Mani Genouri, une spécialiste de la littérature persane en Europe. Aquí, avez la seconde et dernière partie de la conférence qui fut registrée en avril de 2014 al Cirdoc, per la Sant Jordi.
Il se trouve que dans la région de Tripoli, et qui permettait de défendre Tripoli, il y a ce que les Toulousano-Provençaux ont construit, qui est ce fameux crac des chevaliers qui aujourd'hui, hélas, est au milieu des conflits, un petit peu. Et vous voyez bien que cette... qui est assez bien conservé, lui aussi. Là, c'est pour vous situer un épisode que Manégé va vous donner un petit peu à écouter, puisqu'il se trouve qu'un des plus grands poètes persans, hein, Saadi, au XIIIe siècle, oui. Voilà ce qu'il dit, tu pourras le lire peut-être en persan.
Voilà.
Un jour, lassé de la société de mes amis de Damas, je m'avançais dans le désert de Jérusalem et je me familiarisais avec les animaux, etc., jusqu'à ce que je devinsse le prisonnier des Francs. Les Francs, c'est le terme générique. En fait, c'est les Occitans de l'époque. On me fit travailler la terre avec des Juifs dans les fossés de Tripoli, etc., etc. Donc on a un poème extraordinaire de Saadi qui est lié à cette rencontre un peu imprévue. Hein, voilà.
Donc Saadi, un grand poète persan du XIVe siècle, dont certains poèmes sont les trésors du patrimoine immatériel de l'UNESCO aujourd'hui. Alors il dit comme ceci: Hekayat siyodovom babedovom as sohbat yaran damashqam malalati padim pamidad omade bud sar dar biyaban quds nahadam va be hayvanat ons gereftam ta vaqti ke asir farang shodam. Farang, ça veut dire les francs. Les francs. و در خندق ترابلوس با جهودانم به کار گل بدانستند. یکی از رؤسای حلب که سابقه ای میان ما بود گذر کرد و شناخت و گفت ای فلان این چه حال است؟ گفتم چه گویم؟ بر حالت من رحمت آورد و به 10 دینار از قیدم خلاص کرد و با خود به حلب آورد. حلب صدیق علب و دختری که داشت به نکاح من در آورد و به کابین 100 دینار مدتی برآمد بدخوی ستیز روی نافرمان بود زبان درازی کردن گرفت و عیش مرا منقص داشتن. Et donc la femme, en fait, il a été vendu, il était prisonnier du franc, donc, et après on l'avait libéré, mais l'homme qui l'avait libéré lui avait proposé de se marier avec sa fille, mais la fille était acariâtre. Et donc il dit, mon plaisir était toujours tari par le caractère de ma femme. Et à la fin, il dit, s'il y a des femmes de mauvais caractère dans la maison d'un homme de bon caractère, alors ils sont dans l'enfer.
Voilà. Merci.
Et c'est un texte du XIVe siècle.
Voilà. Et le texte de... comment ça s'appelle, l'histoire de l'emprisonnement, c'est certainement sous Raymond III de Tripoli. Hein, Raymond III, la dynastie toulousaine.
Oui.
J'avais oublié de vous dire que Geoffrey Rudel, s'il est intéressant peut-être aussi à revoir toujours, c'est que quand il dit dans le Caloris de la Fontana, hein, vous connaissez peut-être ce texte, et quand même il dit qu'il est là, cette dame du château dont il est épris, on ne sait pas si, et ça c'est quand même intéressant, et à la limite il s'en moque, hein, est-ce qu'elle est chrétienne, juive ou sarrasine ? C'est pas grave, hein, puisque c'est la dame de ses... la dame de loin. Alors, ensuite, on va passer un peu rapidement à le relais de Chypre. Alors, relais de Chypre, là, c'est Peyre Vidal qui est intéressant. Vous savez qu'il a une histoire démente et qu'on dit à un moment donné que... Vous connaissez l'histoire de Peyre Vidal, hein, qui est une Toulousain, voilà, donc je vais pas... Et qu'il était de Toulouse, etc. Et qu'il s'en alla outre-mer. Et de là, amenait une ogrego, qui lui fut donnée à moulier en Cypre. Il amena une femme grecque qui lui fut donnée comme épouse à Chypre. On lui fit croire qu'elle était nièce de l'empereur de Constantinople. Donc lui, il a pensé qu'il avait droit à l'Empire immédiatement. Hein, voilà. Donc c'est un Occitan très optimiste. Voilà. Et donc, lui était lié... Attends, excuse-moi, juste avant. Lui était lié donc à cette île qui était après... la fin des États latins, et notamment celui du comté de Tripoli, donc les chrétiens ici c'est devenu l'avant-poste de la chrétienté face à l'islam. Donc pendant quand même quelques temps, avec d'abord la famille des Lusignans, qui sont des Poitevins, liés au pouvoir français, et puis après les Catalans ont ravi un petit peu, hein, se sont installés à la suite, et on va trouver, oui, justement après, un autre personnage, que vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un personnage tout à fait intéressant, qui est Guillaume VI Durand de Mende, qui a été évêque de Mende, et qui a été un homme très cultivé, et qui a été associé à Émeric Amalric de Narbonne, qui était vicomte de Narbonne, pour une mission en Égypte, pour essayer de recommencer peut-être une croisade. Mais en fait, il s'est arrêté à Chypre, et notamment à Nicosie. Et là, il est devenu envoyé, missionné par Jean XXII, pape d'Avignon, originaire de Cahors. Il a été, il est devenu là-bas le confident et en même temps le, comment on appelle ça pour les fautes là, le confesseur de la reine de Chypre de ce temps-là. Quand il est revenu, il a eu le temps de faire construire d'ailleurs ici au château de Cassan, qui ne doit pas être très très loin, hein, voilà, une chapelle qui s'appelle Saint-Privat. Saint-Privat, c'est le saint de Mende. Hein, et on a fait une sculpture, après la suite, une tombe funéraire, un gisant qui est d'une beauté extraordinaire et qui a été transporté au musée des Augustins à Toulouse. Si vous avez l'occasion, vous regarderez de près la façon, la facture, hein, de cette qui est considérée comme une des plus belles sculptures du XVe siècle. Évidemment, à Chypre, il y a Famagouste, mais ça, c'est une autre conférence que peut-être vous avez vue sur l'art gothique occitan et l'art mudéjar. Eh bien, vous voyez que ici, ce genre à Famagouste, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul est de style gothique occitan. Hein. Il y a d'autres styles, évidemment, dans toute l'île qui se concurrencent, le style français et le style, bien sûr, musulman. On continue. Voilà. Ah, bien sûr, tiens, on a oublié le S. Relais de Sicile. La Sicile, vous savez que... Alors là, c'est encore lié à l'Orient, puisque c'est les Fatimides, la dynastie des Fatimides. Or, Fatimides, ça vient de Fatima, et c'est des chiites. Voilà. Voilà. Et ils ont occupé la Sicile. Donc, influence musulmane, mais chiite, évidemment. Et vous avez ici, dans le palais, c'est la Ziza. La Ziza, ça veut dire normalement...
Le chéri, en fait.
Le chéri, le glorieux.
Le glorieux, voilà. Le chéri, voilà.
Dans le palais d'Aziza, qui est en train d'être restauré. Allez-y, c'est super. Et voyez qu'ici, il y a représentation de deux pans autour, donc des animaux affrontés, enfermés dans un cercle, et avec un arbre, qui est l'arbre de vie, qui est quelque chose qui nous vient du monde mésopotamien, hein, qui est repris. Nous retrouvons souvent dans l'art byzantin et dans nos églises ici, les apports, c'est-à-dire que chaque fois que vous voyez deux animaux, comme deux colombes, qui sont autour d'un arbre ou qui boivent de l'eau à un bassin, hein, qui représente un peu l'Eucharistie, c'est des migrations d'images qui nous viennent de cette région-là. Ici, vous avez à droite quelque chose d'assez extraordinaire, c'est la chape au Paon, qui est à Toulouse, 12e siècle. Toulouse, c'est lié à la Sicile, hein, de toute façon. Hein, vous savez que Raymond IV a pris sa femme en Sicile, notamment. Donc tout ça, il faut regarder de près. Et voyez qu'il y a ici deux pans magnifiques à aigrette qui sont affrontés autour d'un arbre. Et il se trouve qu'il y a ici deux colliers de perles. Ça, c'est typiquement sassanide.
Oui.
Tu n'as pas un ?
Oui.
Ah ben, c'est sassanide.
Oui, bah, oui.
On a fait exprès. On a vu les chameaux, maintenant on voit les perles sassanides.
Mais non, c'est vrai.
Et puis ici, vous avez aussi, c'est des demi-palmettes que l'on va retrouver dans l'art roman, notamment. Hein. Vous savez que beaucoup de nos églises d'art roman vont reprendre des thèmes qui sont dans les soieries, notamment, et dans les ivoires. Continuons.
Et juste une note, oui. Les premiers animaux stylisé et affronté, c'est à Persépolis. Et Persépolis, voilà. C'est le palais des rois sassanides, bien sûr.
Allez, continuons, allez Cécile. Alors, ça c'est un, voilà, le manteau de Roger II de Sicile, qui est extraordinaire, hein, qui est une œuvre qui est à Vienne, je crois.
Kunstmuseum de... Voilà.
Et là, bon, c'est l'inverse, hein, ils sont adossés et autour de ce principe toujours d'arbre de vie. C'est une chape fabuleuse. Et ça, c'est de l'art sassanide également, hein, de l'art persan. Le palais de la Ziza, ici, qui vient d'être, qu'on est en train de restaurer, notamment, voyez que la configuration générale, un grand rectangle, avec ce qu'on appelle des parties, il y a des ouvertures qui ont été faites un peu plus tard, normalement, c'est des arcatures aveugles. Les arcatures aveugles nous viennent notamment du palais des rois,
De roi de Perse, oui, à Tisifoun. C'est-à-dire, c'est à la frontière de l'Irak, en fait.
Voilà, près de Bagdad.
Près de Bagdad.
Donc, ça veut dire, on imagine les Perses toujours au-delà, mais non, la capitale est en Mésopotamie. C'est pour ça qu'ils récupèrent, les Persans récupèrent évidemment beaucoup d'art mésopotamien. Et vous voyez qu'au centre, il y a une entrée principale qu'on appelle le terme. Là, qui c'est Ivan.
Tor et Ivan.
Vous avez donc une façade d'arcatures aveugles, il y a très peu d'ouvertures, et on construit, il y a une porte principale avec deux qui sont de part et d'autre. Donc on continue à garder cet art, l'art fatimide continue à garder cet art du temps des Sassanides. On continue. Voilà, à l'intérieur, il y a quelque chose d'étonnant qui nous renvoie évidemment au jardin notamment et à l'eau, aux canalisations d'eau, c'est-à-dire que normalement, à l'intérieur d'un espace comme celui-là, de mosaïque, et actuellement ils sont en train de le mettre en marche, il y a des bassins octogonaux à l'intérieur de la maison, et après ça sort dans le jardin. Ça, c'est typiquement...
Le jardin persan.
Le jardin persan. Voilà.
Premier et jardin persan.
Les moukarabiés ici, ici aussi, ça c'est de l'art...
De l'art persan.
De l'art persan.
Bien sûr.
Voilà, on continue... Hein? Toujours d'une source intérieure ou des canalisations, parce qu'ils sont très doués, on appelle les canates, non ?
Oui, des canates, voilà. C'est-à-dire, si vous voulez, il y avait des canalisations de l'époque de Cyrus, ça veut dire nous sommes au 6e siècle avant l'ère chrétienne, et donc à côté de Persépolis, vous avez à 130 km de Persépolis, vous avez encore on a ces canates, c'est en fait le tombeau de Cyrus qui est encore là, avec quelques pierres qui restent sur place. Et donc, si vous voulez, c'est une canalisation intérieure, c'est-à-dire sous terre, qui alimente toute cette partie de l'Iran qui est très sec, en fait, n'est-ce pas, très sèche. Et mais comme les canaux sont les canates, on appelle ça les canates, et comme ils sont souterrains, l'eau reste fraîche. Et puis et ils viennent des sources de montagne, parce qu'ils sont toujours à côté des montagnes. Oui.
Voilà, on passe aux autres relais. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre? Voilà. Alors oui, la Sicile évidemment est importante parce que les troubadours sont reçus à la cour de Frédéric II. Bien sûr, de Sicile. Et là, donc, c'est une histoire que vous connaissez certainement aussi. Et là, se font, évidemment, encore des connexions. Hein. On continue ensuite.
D'accord.
Relais de Cordoue. Alors là, il y a beaucoup de choses. Simplement, je vous mets simplement que ici, les alternances de la Kia à la mosquée, les alternances de briques et de pierres, eh bien, on va les retrouver abondamment, évidemment, dans le monde byzantin, puisque ça vient en partie du monde byzantin. Ici, et bien sûr à Toulouse, où il y a plein de ce style d'alternance. Alors, on vous a dit que parmi les relais de Cordoue, mais après, disons la médecine, allez, la médecine, et bien vous avez ici à Questo de Montpellier une personnalitat, Arnau de Villanova, hein, qui est un médecin qui a été contesté, mais qui a étudié beaucoup, et dont. Les deux
grands médecins chimistes, Rosi, que en latin, puisqu'il a été traduit en latin très très tôt, s'appelle, on l'appelle Rhazès. Rhazès est c'est lui qui a découvert l'alcool. Vous voyez, et donc alcool, d'ailleurs le nom alcool. Voilà, alcool veut dire la totalité. La totale, n'est-ce pas? Et Avicenne, bien sûr, médecin, mais pas seulement médecin, mais philosophe, mystique, astronome, musicien, donc mort en 1037.
Donc son maître essentiel, c'est Rhazès, qui avait déjà travaillé sur l'alcool.
Oh, oui, 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 oui. Et l'accès, bien sûr, par les textes en latin.
Alors, les imaginaires. Les religions, les architectures, les soirées, les voyages, les femmes, les jardins, on ne pourra pas tout voir. Donc, un exemple par chapitre, parce que sinon, chacun, ça serait une conférence en elle-même. Les religions. Alors, on va, le mithraïsme qui est persan.
Ah oui, parce que à l'origine, il y a le zoroastrisme.
Donc, c'est
pas, oui, tout
on
à fait.
Or, il se trouve que les troupes militaires romaines qui travaillent sur le front oriental, quand ils sont à la retraite, on leur donne des terres ici, du côté de Béziers, du côté de Toulouse, et notamment du côté de Lectoure. Notamment, on va voir ça après. Et donc, c'est le sacrifice du taureau. C'est une religion du siècle qui a failli détrôner le christianisme. Très importante. Alors, voilà les tours. C'est l'endroit où on trouve le plus de tauroboles de toute l'Europe. Qu'est-ce que c'est les tauroboles? Une fois que vous assistez à l'égorgement du taureau, vous êtes dessous sous une grille et vous devez être inondé de ce sang. Et en remerciement, vous allez offrir, pour les familles en tout cas riches, un taurobol. Donc, on retrouve ce mithraïsme. Donc, vous en avez de magnifiques. Il y en a à peu près une trentaine à Lectoure. Voilà. Et il se trouve que Toulouse, évidemment, est liée au taureau à cause de ce martyr de Saint-Sernin, qui exprime la concurrence de ces deux, du mithraïsme, du culte du taureau, et en même temps, la religion nouvelle, le christianisme. Donc le taureau, et on va faire quelque chose d'ailleurs, on va reprendre, je pense, un totem du taureau dans la rue du Thor à Toulouse bientôt, pour récupérer cet imaginaire. Alors, cette partie du Levant. Je vous ai mis quelques, il faudrait des flèches entre. De là nous viennent énormément d'imaginaires religieux. Alors, qu'on appelle quelquefois hérésie, prenons par exemple Alexandrie. Alexandrie est une ville fondée par Alexandre.
Alexandre le Grand, oui, bien sûr.
L'Asie centrale.
Bien sûr. Alexandre le Grand, donc 3 siècles avant l'ère chrétienne, bien sûr.
Et il y a beaucoup d'imaginaires religieux et d'hérésies qui viennent d'Alexandrie, notamment celle d'Arius. Arius, donc, après va être repris par Ulfila. Ulfila, c'est en Anatolie, et ce sont la religion arienne va rencontrer là-haut les Visigoths, arianistes, et de là, ça va aller, bien sûr, sur Toulouse et l'Espagne, nos régions à l'Espagne. Si on prend, par exemple, le manichéisme.
Mani, donc le prophète du manichéisme, qui en fait a essayé de faire la synthèse des 3 religions, le bouddhisme, le christianisme et le zoroastrisme. Donc 247 après l'ère chrétienne, qui était peintre en même temps et végétarien. Mani.
Ça peut nous paraître là aussi très éloigné, et en fait vous connaissez peut-être Achéloque, Del Secletre, qui est un chef-d'œuvre, qui nous vient de Max, Balaam et Josaphat. Balaam et Josaphat. Josaphat, c'est Bouddha. Et dans cette œuvre, on peut y lire les influences que tu viens de dire, les influences manichéennes, les influences peut-être même zoroastriennes. Et en tout cas, dans ce livre, il y a une histoire particulière qui est racontée, qui est le rossignol et l'archer. Très très jolie histoire, et qui nous vient des Ouïghours. Alors les Ouïghours, c'est le Turkestan aujourd'hui chinois. Et il y a une ville, Turfan, et dans laquelle jouent un rôle important les Nestoriens.
Oui, les Nestoriens qui étaient les chrétiens, voilà. Qui étaient évidemment en relation avec les Manichéens.
Voilà. Alors les Nestoriens, c'est une histoire extraordinaire. Ce sont des Arabes et qui connaissent en même temps plusieurs langues, le syriaque, l'arabe et le grec. Et sont eux qui vont faire passer la science grecque à Bagdad. En grande partie, ce sont des traducteurs. Mais en même temps, c'est des...
Parce qu'il y a beaucoup de textes qui se traduisaient quand même à cette époque-là.
C'est des chrétiens, mais des chrétiens qui ne reconnaissent pas la Trinité ou autre, et qui vont aller jusqu'en Chine, donc jusqu'à Turfan, avec l'espoir de convertir les Mongols. Donc ils ont réussi en grande partie. En tout cas, c'est un grand vecteur de civilisation. Et pour vous dire qu'à Turfan, par exemple, qui est une cité qui est à 100 mètres en dessous du niveau de la mer, en plein désert chinois, là aujourd'hui, du Turkestan, eh bien, il y a dans les grottes la plus vieille représentation de la croix occitane à 12 boules. Donc on pense que les Nestoriens ont dû faire un travail sur cette de liaison subtile jusqu'à la mer, ici jusqu'à Tripoli. Il y a bien sûr tout ce qu'on appelle le soufisme.
Oui. Hein. Oui, le soufisme.
Il vient du Khorasan en grande partie.
En grande partie de Khorasan, parce qu'on dit que le soufisme, c'est la voie spirituelle de l'islam, mais en vérité, cette recherche de soi-même, cette recherche spirituelle, date de bien avant l'arrivée de l'islam, parce qu'il y avait les néoplatoniciens qui étaient chassés de Grèce, parce que Platon n'en voulait pas, et qui se sont réfugiés en Perse, et qui ont en même temps appris le persan et en même temps appris le grec au persan. Et donc la philosophie néoplatonicienne est la base du soufisme.
Voilà.
Tout au moins du soufisme iranien, persan.
Alors ce soufisme, évidemment, vous savez que Rumi, qui est un des grands soufi, il va terminer ses jours justement en Anatolie. Et donc ça c'est...
Donc de 1207, 1273, voilà. Et donc à 14 ans, il émigre en Anatolie et il a un maître, un grand maître qui s'appelle Shams de Tabriz, ça veut dire le soleil de Tabriz. Et donc il compose deux grandes œuvres, les deux au nom de Shams de Tabriz.
Alors le soufisme va évidemment passer par cette voie de Bagdad, Kairouan, Cordoue et remonter au nord des Pyrénées et aller s'installer aussi au Baléares. Il y a des soufis. Et qui c'est qui est au Baléares un auteur occitano-catalan important? C'est Ramon Llull qui dit lui-même, hein, c'est lui qui l'écrit. Et aquels que sun mespreat en frère sun unigens que annun soufis. Ceux qui lui ont appris, ce sont des soufis. C'est écrit tel quel. Alors il se trouve qu'un des grands soufis, Al-Ghazali.
Al-Ghazali, oui, voilà, oui. Abu Hamed Muhammad Ghazali.
De réputation, en tout cas.
1111, oui. Et sans doute il l'avait lu, même, voilà. Ghazali. Oui.
Et si vous avez l'occasion de lire le livre de l'Amic et de la Mat, ah, c'est équivalent. D'ailleurs, on a fait un spectacle à Paris, à l'Institut du monde arabe, avec Manégé et le groupe musical de Cher Mirani, Rumi et Ramon Llull.
Ramon Llull. Et Ramon Llull, nous l'avons traduit en persan.
Alors, à Paris, ils avaient des yeux comme ça. Des yeux, qu'est-ce qui se passe à Toulouse? Voilà. Bon, pour d'un continuat, après les imaginaires architecturaux. Alors, allez, on y va.
Las conferencias de Radio Languedoc.
Il faut revenir donc dans cette partie de Sarvestan, acquis à l'époque sassanide, c'est ce lieu-là qui a été conservé un petit peu pour voir qu'est-ce que c'est une coupole sur trompe. Nous avons beaucoup de coupoles sur trompe, du Puy-en-Velay, etc., de Toulouse au Puy-en-Velay, et ça veut dire que vous avez un carré qui représente la base. Depuis les Grecs, c'est la terre, ça symbolise la terre, et la coupole représente le ciel. Comment on passe de la terre au ciel? Enfin, c'est quelque chose qui nous... Hein, qui nous staffure en général, hein, encore c'est pas résolu totalement, mais en architecture on passe par l'intermédiaire de l'octogone, c'est-à-dire qu'on fait des trompes. Vous avez le carré ici et on va faire des arcs à la limite qui permettent d'asseoir la coupole. Donc tout ça nous vient, on va voir quelques exemples, notamment ici à Toulouse Saint-Cernin, et vous voyez que ici nous les avons là et on passe à ce chiffre 8 qui symbolise depuis Aristote l'harmonie, normalement. Hein. Les huit branches, les huit chemins du nirvana pour les bouddhistes, les huit portes du paradis pour les musulmans, etc. La résurrection pour les chrétiens, hein, le huitième jour, etc. Et vous avez ici le Puy-en-Velay, qui est assez extraordinaire dans sa... Là, on lit bien cette architecture. Membran. Tout ce qui est normalement les polylobes. Donc ici, on a à Tagesquesra, dans la capitale de Ctésiphone, près de Bagdad, les Sassanides inventent ce procédé de polylobes. Et dans la région toulousaine, on en trouve pas mal, mais tout ce qui est Saint-Onge, évidemment, sur le chemin de Compostelle qui prend les choses qui viennent du monde de Mozarabe et de Cordoue, eh bien, on va trouver ce genre de polylobes. De même, après, quelque chose qui est tout à fait intéressant, quand on est à Ctésiphone, toujours, ce qu'il en reste, évidemment, hein, vous voyez qu'il y a ce que je parlais tout à l'heure, les arcatures aveugles. Ça organise le rythme D'une, sinon, ça serait sec, une simple façade comme ça. Donc, on l'organise. Et surtout qu'à Kairouan, qui est bâti très tôt, hein, au 8e, 9e siècle, vous allez avoir un étage, ici, ce qu'on appelle d'arcature aveugle. Ce n'est qu'au dernier étage qu'on va éclairer, qu'on va ouvrir. Et il se trouve que dans toutes les églises d'art gothique occitan, en général, il y a toujours un étage qui est d'arcature aveugle, hein, qui rappelle cette architecture. Imaginaire des soieries. Les soieries sont achetées à prix d'or. Sur ces soieries, il y a de l'illustration, il y a des animaux, il y a des choses intéressantes au niveau esthétique. Donc, on va les utiliser. Alors ici, par exemple, vous avez un tissu sassanide avec ce fameux...
Ça, c'est une sorte d'oiseau, l'oiseau mythique persan qui s'appelle Simorq. Mais c'est le cimor stylisé, bien sûr, qui est sur la montagne toujours imaginaire Qaf. Et donc, à l'époque sassanide, il paraît que c'est ce cimor dont le nom est du moyen persan, Sayamorqa, ça veut dire l'oiseau du monde. À partir de lui, tous les oiseaux, et même, on dit, tous les êtres humains sont nés et sont venus sur Terre. C'est-à-dire, c'est, en fait, cimor, c'est le début de la création.
Voilà. Et alors, vous en avez beaucoup sur le monument roman, notamment dans la région de Saint-Onge, même à Moissac, donc il faut les repérer. Ils sont pratiquement tels quels. Et puis, vous avez bien sûr l'éléphant, hein, qui est emblématique. Et il se trouve qu'à Ganagobi, je ne sais pas si vous connaissez Ganagobi, mais Baloukop, Diana, vous avez des mosaïques. Eh bien, c'est à partir des soieries que les mosaïstes vont créer ces animaux, toujours dans des cercles, quelquefois, hein, avec le palanquin, hein, qui est l'emblème un petit peu de cet animal. Toulouse-Saint-Cernin, simplement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas d'habitude. Il y a deux lions ici. Ces lions qui entourent toujours l'espace de l'arbre de vie, hein, cette façon d'affronter. Ça aussi, ça vient des soieries, certainement, ou de ce qu'on a trouvé à l'Andalous. Et il se trouve qu'il y a quelque chose qui nous dit que c'est sassanide. C'est la façon dont la queue passe par en dessous et sort en forme de pinceau quelquefois. Elle passe sous la cuisse, etc. Ça, c'est un élément de sassanide.
Mis à part que le genre des lions persans est un autre genre que les lions d'Afrique. C'est-à-dire la crinière du lion n'est pas pareille, comme vous voyez sur ces représentations. Nous avons les lions persans toujours de cette façon-là.
Alors ces lions viennent de, on l'a aussi, hein, de Mésopotamie, il y a beaucoup de représentations.
Oui, mais il paraît qu'il existe encore dans la forêt de Mazandaran qui est à la Caspienne.
Oui. Non, mais là tu vas pas.
Oui, non.
Non, ça va. Persépolis, les ivoires, c'est intéressant, ça c'est le fameux corps de Roland à Saint-Cernin à Toulouse, et voyez qu'ici on représente des lions, et une scène où notamment il y a une gazelle qui est prise par un lion. Ça c'est un motif mésopotamien, et qu'on retrouve bien sûr chez les Sassanides. Voilà. Alors, est-ce que vous connaissez Aquello Persuno? Jordan de Sévérac, un personnage alors vraiment hors du commun, qui au XIVe est envoyé encore par le pape d'Avignon et qui va aller jusqu'à Tabriz.
Tabriz, donc à l'opposé de Khorasan, c'est-à-dire le nord-ouest de l'Iran, une ville très ancienne, très importante. Beaucoup de chrétiens étaient à Tabriz, une ville où les monuments historiques aujourd'hui sont encore restent des époques très anciennes.
Et il va écrire un ouvrage qui s'appelle Les Merveilles de l'Asie, mais on l'appelle beaucoup, les ouvrages d'orientaux, on les appelle Les Merveilles de... C'est l'époque de Marco Polo, mais ce livre est plus intéressant que celui de Marco Polo. Il est moins connu parce qu'il est moins... parce que Marco Polo invente des tas de trucs. Il y a des animaux, pas possible. Lui, il en invente quelques-uns, mais il va être intéressé par décrire des habitudes alimentaires. Il va décrire... parce qu'un peu comme les pharmacopées qu'on va voir après, là.
Oui.
Il va s'attacher à un peu de réalisme. J'espère que ce jour, ce livre sera... il est écrit en latin, bien sûr, et qu'il pourra être à notre disposition. On continue. Imaginaire des fables. Ah, les fables. Les fables nous viennent de l'Inde, notamment. Et il se trouve d'un certain Bit Pai. Ça a été traduit?
Oui,
en persan.
À l'origine, donc indien, puis traduit en moyen persan, en Pahlavi, puis de Pahlavi traduit en arabe, puis traduit de l'arabe en persan d'aujourd'hui, et après traduit en latin, etc.
Alors ça va arriver à Cordoue, comme toujours. Ça monte jusqu'aux Pyrénées. Ça arrive à Saragosse. À Saragosse, il y a un type assez extraordinaire, un juif converti qui s'appelle Petrus Alfonsi. Il va traduire un livre qui s'appelle « Discipline des clercs ». Et dans cette discipline des clercs, il reprend Kalila et Dimna. Et certains textes encore. Et vraiment, Lioul en a connaissance. Et il va écrire ce fameux livre « El libre de les besties ». Hein, on va retrouver des fables qui nous viennent de l'Inde. Continue.
Et La Fontaine, évidemment, voilà. Après,
La Fontaine, prend lui aussi, dit qu'il s'inspire a emprunté de... à Bidpai certaines de ses... Mais on oublie toujours, on passe à La Fontaine, les fables, mais on oublie toujours que par les Pyrénées et par les ports, ça arrive déjà au XIIIe chez nous. Hein. Alors, l'imaginaire des jardins.
Donc, si vous voulez, le jardin persan, après les jardins suspendus de Babylone, les premiers jardins sont les jardins persans, donc 6 siècles avant l'ère chrétienne, donc au palais de Cyrus. Le premier jardin qui est attenant au palais, c'est-à-dire se trouve devant le palais, alors que les jardins suspendus du Babylone sont à côté des palais. Et donc ce jardin est composé de... il est divisé en 4 parties. Il y a une source centrale. Et donc les 4 parties sont irriguées par l'eau, souterraines ou pas. À cette époque-là, aux alentours, il y a 2 arbres emblématiques qui sont plantés, ce sont des cyprès et des platanes. Les cyprès, parce que ça représente l'éternité, et les platanes, ça représente le renouvellement. Renouvellement. Voilà. Et donc ce jardin est fermé des 4 côtés, comme
donc
les jardins occidentaux.
Mais on trouve ça en Mésopotamie et dans la Bible notamment. Hein, c'est les 4 fleuves
le paradis, en fait, si vous voulez aussi, étymologiquement, le mot paradis vient d'un mot persan, un mot ancien persan qui est pardis. Et pardis, à l'époque achaménide, voulait dire à la fois jardin et à la fois paradis. Pourquoi ? Parce qu'on arrivait d'un milieu très aride et sans végétation. D'un seul coup, on arrivait dans un milieu où la végétation était verdoyante et on avait l'eau. On avait, comme dit Alem, ça c'est un terme d'Alem, le gazouillis d'eau. Et donc ce lieu s'appelait Pardis.
Les troubadours ont beaucoup parlé des jardins. Et ils ont eu certainement, eux en face, ils ont vu des jardins d'origine persane, ne serait-ce qu'au sud des Pyrénées, et ils ont voulu certainement s'en faire. Bon, beaucoup de choses ont disparu. Mais si je cite par exemple Gaussem Faidit, « Pues cal pais turna un bal mais uns paux orts que d'autre terre sta rix am gran benanansa. » Que je puisse revenir au pays où le moindre jardin vaut mieux que la richesse et l'aisance sur une autre terre. Il y a un... magnifique texte d'un Jaufre, connaissez le roman du siècle XIII. Dans Jaufre, il y a une description de jardin qui correspond à des miniatures persanes. Alors, il se trouve, il faut que vous sachiez que Jaufre a eu un tel succès à son époque que le roi d'Aragon, le premier roi chrétien, dans le même bâtiment, le palais arabe qu'il y avait avant, qui s'appelle la Al-Jaferia, à Saragosse, malheureusement, ces fresques ont disparu, donc on avait peint. On avait demandé que soient peints et devait y avoir une représentation de ceci. Alors, c'est un texte splendide. Hein « Et la neit fom belle et serena, que nun estrebuls ni escura, et es ben guts per aventura in un berger tu claus de marvere, etc. La nuit était belle et sereine, claire et sans nuages. Il arriva, donc Jaufre, par aventure, devant un verger tout enclos de marbre. » Parce qu'il faut que ce soit enclos. Oui. On n'est pas, c'est pas du tout le jardin à la française. Hein. Je ne pense pas qu'il existe au monde quelque essence, pourvu qu'elle soit belle et bonne, qu'il soit représenté ici par un arbre ou deux. Des plantes précieuses ou fleurs rares qu'on y trouve en abondance, il s'exhale de ce lieu un parfum si pénétrant, si agréable à sentir, qu'on se croirait en paradis. C'est un texte tout à fait persan, hein, de style.
Parce que les fleurs aussi, il faut qu'elles soient parfumées. Elles soient parfumées, autrement ce ne sont pas des fleurs dans ces jardins. Voilà. Et donc, ça, Alem, tu n'as rien dit.
Ça, vous savez où c'est ? Alors, ça, c'est toujours l'équivalent côté occitan. Ça, c'est une merveille qui a été sauvegardée. À Die, en Provence, là où habitait la comtesse de Die, a connu ça. Ça a été fait demander par l'évêque de Die, et il a fait, donc, on fait représenter une mosaïque splendide dans laquelle on retrouve évidemment la source principale d'où sortent 4 fleuves. Les 4 fleuves, dont le Tigre, le Frate, alors le Gison, et puis un autre qui est un peu imaginaire. Alors, il y a des représentations, justement, de poissons, de trucs, c'est assez extraordinaire. Voilà, on continue. Et on passe, si on a... Érudits et voyageurs, gaiement, du 16e au 19e siècle,
oui,
pour dire que, après, les Orients, famille du Midi. Il y a un livre magnifique, une exposition qui vient d'être faite, qui s'appelle Le goût de l'Orient. Et j'étais très content, parce que pour une fois, depuis que je rame depuis 20 ans sur ces notions, de me dire qu'enfin, on voit des choses... Hein, des gens qui travaillent et qui disent que l'orientalisme romantique méridional se nourrit aussi d'un imaginaire médiéval qui rappelle l'ancienne présence musulmane de la province de la Narbonnaise au 8e siècle et de Massif des Morts, etc., etc., etc. Donc que ce goût de l'Orient est beaucoup plus ancré pour des raisons géographiques, de proximité, puis aussi d'imaginaire dans nos régions. Alors, ici, vous avez au Capitole, mais j'ai mis 20 ans avant que les guides en parlent, il y a un plafond Mudéjar, c'est-à-dire d'une esthétique musulmane au service des chrétiens, qu'on trouve beaucoup au sud des Pyrénées, mais les Pyrénées ne sont pas une frontière. Et donc, c'est au Capitole, c'est-à-dire, vous avez ici l'emblème de l'esthétique musulmane, c'est-à-dire une toile à 8 pointes, polygone étoilé, et qui est entourée de croix grecques. Ce motif, on le trouve évidemment en Asie centrale, et ils nous viennent de là d'ailleurs. Et on voit là, ça c'est que c'est.
Voilà, et ça ce sont les mosaïques persanes.
Dont on trouve certaines sont au musée, il y en a à New York que j'ai vu la dernière fois qui sont magnifiques également. Voilà. Après, alors, à quel le connaissais-je, Beléo ? Fabri de Peyrès, là aussi. Hein, c'est grâce à lui, c'est peut-être le premier, hein, c'est ce qui a lancé les études orientales. Fabri de Peyresque. Et il se trouve qu'il avait entre les mains un manuscrit dont vous avez ici un exemple, qui s'appelle La Fortuna dei Turcs, qui a été traduit du persan et du turc par un Marseillais, un Martégal, qui s'appelle Armand de Martègue. Voilà. Et il se trouve qu'à la mort de Peyresque, on a écrit une panglossie. C'est-à-dire Gabriel Naudet, et pour remercier, un hommage. Et là, c'est écrit en plein de langues, dont le persan et l'occitan. Hein, donc c'est tout à fait intéressant. Allez, on continue. Voilà. Vite.
On va aller vite
là maintenant. Voilà, là, qu'est-ce que c'est Montesquieu, lettre persanée, on passe.
Voilà, on passe, voilà, c'est ça.
Vous, parce que vous connaissez, Jules Laurent, vous le connaissez ? Un peintre, etc., de Carpentras, et qui a peint, ce qui est intéressant dans cette peinture, c'est qu'il est allé peindre en Perse des palais qui ont disparu. Certains.
Oui, grâce
à lui, on a quelquefois des ébauches de jardins, etc., qu'on peut reconstituer. Allez, on passe. Celui-là, à laquelle vous connaissez, Loubon, c'est un grand peintre provençal. Ben, il a voulu se faire, c'était la mode, hein, époque orientaliste, donc il fallait se faire représenter avec un mélange d'Ottomans et en même temps de Gandoura berbère. Bon, c'était très chic. Voilà. Alors, il se trouve qu'ici, on a Coste, Pascal Coste, extraordinaire type, toutes les Égyptes, qui a fait un travail sur l'architecture, qui a marseillais, un travail extraordinaire, et qui est allé jusqu'en Orient notamment, et qui nous a fait ce genre de dessin. Allez, hop.
On y va parce que...
Alors là, un couple d'aimants, de oui, Toulousains.
Oui. Que personne ne connaît d'ailleurs.
Vous connaissez Jeanne de la Foi ? Non.
Jeanne et Marcel Dieu la Foi, très rapidement.
Parle de Jeanne, je vais parler de Marcel. Allez,
voilà, c'est ça. Voilà. Jeanne, donc, née en 1850, est morte en 1912. Et elle est née à Toulouse et elle est enterrée à Terre-Cabade. Et en 1882, mariée avec, elle est native magre, mariée avec un Dieu la Foi, Marcel Dieu la Foi, et sur les inspirations de Viollet-le-Duc, ils vont en Perse. Et ils font 14 mois de bivouac. Ils ramènent les archers de Darius ici, qui sont logés au Louvre. Et les peintres, et les ethnologues, et les photographes. C'est la première femme photographe du monde. Elle prend beaucoup de photos en Perse. Et ces photos donnent après l'objet des gravures qui ornent ces deux livres qui sont publiés chez Hachette. Et nous avons donc les originaux à Toulouse, dans plusieurs bibliothèques de Toulouse. Ce sont des livres qui sont publiés en 1884-85. Donc toute l'histoire de la Perse et l'archéologie de la Perse, très précieuse pour la
Alors il a fallu, ça a défrayé la chronique, parce que de toute façon, aller en Iran, ce n'était pas évident à l'époque. Donc, il a fallu qu'elle s'habille, qu'elle se...
Oui, elle s'habille en homme. Un homme.
Hein, voilà.
C'est pourquoi les Toulousains ne l'aiment pas trop. Mais c'est comme ça.
Donc, et ils ont été accueillis à Téhéran auprès du médecin personnel du Shah, qui s'appelle qui est un Tolosan. Mais avant, il y avait, au XVIIe siècle, oui, un type assez extraordinaire, un carme de Toulouse, qui s'appelle Ange de la Brosse, Ange de Saint-Joseph,
Il a fait à la fois un dictionnaire extraordinaire dont nous avons deux exemplaires et publiés à Rome, bien sûr imprimés à Rome, qui sont à la bibliothèque du patrimoine, la bibliothèque municipale de Toulouse, où il y a des colonnes en persan, en occitan, en latin, en italien, en galicien. Et c'est extraordinaire, ce dictionnaire. Il faudra qu'on travaille un jour. Ça, ce sont des gravures à partir des photos de Jeanne. Jeanne est une personnalité vraiment extraordinaire. Mais bon,
et l'Iran peut avoir des images de cette époque-là grâce à Jeanne.
Bien sûr, parce que nous n'avions pas de photographe à cette époque-là. Vous voyez encore un paysage de Perse.
Alors, à quel le connaissez-vous? Mais il est intéressant, et là je vous demanderai, je tire des fils, mais à vous de tirer les autres, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit deux œuvres à peu près, normalement, et il les a écrites notamment à Nice, parce qu'il est venu à Nice, et Nice était, à ce moment-là, je ne sais pas si j'ai le texte là, ah oui, qu'est-ce qu'il dit de Nice ? Quand il arrive là. La partie française de Nice m'est insupportable. Ça fait à peine 20-30 ans que Nice est française. Hein, et forme presque une tache dans cette splendeur méridionale. Mais il y a en outre une ville italienne. On y est comme dans une banlieue de Gênes. Il va écrire à la fois deux choses qui nous intéressent à nous. Hein, die Fröhliche Wissenschaft, qui est le gai savoir. Hein, qui est le gai savoir. Et qu'il va relier plus ou moins à Also sprach Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra. C'est-à-dire que là, on a une personne qui... à Nice, va faire un lien tout à fait exceptionnel, un peu temps fantasque quelquefois, entre la Perse et les troubadours. Il avait fait, j'ai vu qu'il avait fait des poèmes en allemand, dont un sur Mistral, mais pas Mistral le poète, bien qu'il le connaissait, Mistral au vent, comme chasseur de nuages, tueur d'affliction, balai du ciel. Ne sommes-nous pas tous deux les premiers-nés d'un même sein, l'accord préalable d'un même destin éternel? Et il paraîtrait, là ça je vous demande de regarder après, à 1905, Mistral aurait traduit certains de ces chants, et simplement celui-là. Et donc, je suis à la recherche de ça.
Alors,
et cause et reliance, ça c'est pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va passer très vite.
Très vite.
Alors, ceux qui, évidemment, sont les bases, un petit peu, hein, les cahiers de Sute avec le génie d'Oc, Nickel, qui est l'Américain qui a écrit sur les influences poétiques arabo-andalouses et personne sur la poésie des troubadours. Henri Pérez qui a écrit sur les poètes arabo-andalous, quelque chose d'extraordinaire. René Nelly, bien sûr. Et Jean-Claude Vadet, que vous ne connaissez pas tout, mais qui a écrit un livre fondamental qui s'appelle L'esprit courtois en Orient et qui fait la jonction, notamment l'amour de loin et toutes ces choses-là. Et puis Pierre Beck qui, a sorti un petit bouquin.
Un grand monsieur, Pierre Beck, que j'ai eu l'honneur de connaître.
Qui est très, très intéressant, qui s'appelle Les instruments de musique d'origine arabe, le sens et l'histoire, et qui montre comment les troubadours utilisaient certains instruments qui nous viennent aussi de Perse. Les expositions, trois grandes. L'Orient des Provençaux à Marseille. 17 expositions dans la ville, peut-être une des villes qui a fait le plus grande exposition, comme il s'en est fait à Venise ou à Constantinople. Toulouse de Tripoli, magnifique 85, et bien sûr, celle-ci, dans le cadre de Marseille de 2013. Les écrivains occitans, alors là, c'est tout un travail à faire, mais vous avez Père Bosque, dans les livres des oiseaux, connaît très bien le grand livre des oiseaux persans de Hathor. Et il dit, par exemple, dans les bocages de l'Iran, « Boulboul, le rossignol, hein, Aymara Goul, la rose de Goulistan. »
Oui, de Saadi, bien sûr, de Saadi.
Voilà, etc. Donc, il y a plusieurs textes magnifiques en occitan. Max Rouquette et la Perse, mais ça, on en reparlera. Après, Roland Pécou, vous savez qu'il a été jusque à Herat, qui est aujourd'hui en Afghanistan, mais qui faisait partie...
bien sûr, de la Perse.
Du Khorasan, je ne vous lis pas, ça sera pour la prochaine fois. Et Philippe Carbone, qu'on connaît un petit peu moins, a écrit ici un texte d'une aventure qu'il a menée, Traux d'Ilunores, jusque dans ces contrées-là, il y a déjà quelques années. Voilà. Alors, moi-même, dans le livre du double divisible, grâce à quelqu'un qui est un grand poète, qui s'appelle Mohamed Iqbal, qui est un des grands poète du début du XXe siècle, a écrit pour son fils Javitnama.
Javitnama,
qui est
le livre éternel,
le livre de l'éternité, et qui se repère en même temps à Dante, et ça m'a donné l'occasion d'écrire le livre du double divisible et de faire un hommage à un fleuve qui se termine dans le désert. C'est le fleuve disparant.
Oui, Zoyanderud.
Zenderud,
Zoyanderud.
Je vous le dis pas.
Le fleuve vivant.
Voilà.
Alors.
Création contemporaine. Alors là, on va passer très vite parce que tout ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on fait des spectacles, on fait des rencontres musicales, etc. Alors, on va vous les faire passer
très
rapidement
vite.
Pour que vous voyez ça, toutes les.
On va passer voilà. Là.
Alors, ça. Le chant du Ney.
2004.
Exemple, Ombre blanche 2004. Après, vas-y. Ouais. Passion de Rumi, ce qu'on a fait à l'Auditorium Saint-Pierre des Cuisines et à l'Institut du Monde Arabe.
Voilà.
Voilà, Passion de Rumi.
Décembre.
Colloque médecine et ses origines en Pays d'Oc, au musée Paul Dupuis. L'Ubiace de Lausel,
Safare Parandegon.
Voilà, à la musée Roger à Toulouse. Voilà. Jeanne Dieu, la foi et la Perse, une exposition qui est à votre disposition d'ailleurs.
Oui.
Voilà. La médecine et ses origines en Pays d'Oc, ça c'est à la bibliothèque du Mirail. Les mille et une nuits, mille et une nights. Milo et uno de mai.
Oui.
Et uno de mai.
Que nous sommes en train de traduire d'ailleurs en
voilà,
occitan.
En partie.
En partie.
Parce que
en partie.
De Scheherat à Béatrice.
Ça c'est toujours voilà, les mille et une nuits dans un autre lieu. Jeanne Dieu la foi à l'université de Toulouse, le Mirail. Donc l'exposition. Alors, Persianos.
Persianos, de l'ombre à la lune, ça c'était avec Jamshid Chimilani, ça c'était un grand moment. Concert à Saint-Pierre des Cuisines.
Un auditorium Saint-Pierre des Cuisines, donc une création. Ça, c'était...
Musique orientaliste.
Mais parce qu'il y avait des compositeurs occitans.
Et puis, il faut que vous sachiez qu'à Téhéran, il y a un groupe qui s'appelle Nour, qui veut dire la lumière, et dont le chef, le directeur, est un Toulousain, c'est ça?
Oui,
voilà,
tout à fait.
Voilà, Toulousain d'origine persane, sa mère est persane, je crois.
Son papa était persan.
Son papa était persan, voilà. Et donc, qui chante les troubadours. Hein, et on est en contact avec eux régulièrement.
Excusez-moi, mais pour l'entendre, il faudrait qu'on fasse ça.
Oui, parce qu'on voulait terminer sur... que vous entendiez peut-être.
Parce que c'est un mélange très savant entre la musique persane et la musique occitane, le chant persan et le chant occitan, c'est-à-dire ce sont des cantigas de Santa Maria qui sont mélangés avec les poèmes de Rumi qui dit « J'étais mort, je suis devenu vivant. J'étais pleure, je suis devenu rire. La gloire de l'amour est venue, je suis devenu monde éternel. » دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. Vous remercie Jean pour la vostre écoute, c'est stato un po' leste tout à comme vous êtes tout ce qu'il y a en dernier. Vous remercie Jean, je te dirai. Ave Maria, Virgine Maria, Ave Maria. Puntissimus cordanentes, Ave Maria. Puntissimus cordanentes, Ave Maria.
Aqua Zero, la seconde et dernière partie d'une conférence menée par Alain Suer Garcia et Mani Genouri à propos de l'influence de la culture occitane dans les littératures mietzteranenko. À quelle conférence fut enregistrée le 26 d'avril de 2014 à Sirdoc de Béziers pour la Saint-Jordi.